franceinter.fr. J'ai une question à vous poser.
Mais
on commence par ça.
Je vous en prie.
C'est Frédéric qui vous la pose, qui est un voisin de Laetitia G de Tours.
Oui.
Mais ce ne sera pas Laetitia Gaillet.
Ça me dit quelque chose. Oui.
Monsieur Baraton, lors de vos interventions cet été sur France Inter, vous avez expliqué qu'il fallait jeter un certain nombre de choses dans le jardin du voisin.
Oui.
C'est pas beau de dire ça. C'est qu'au retour de mes vacances, je me suis retrouvée avec des courtillères, des vers de pommes, de la paille, des perce-oreilles et des escargots. Mon jardin est devenu un vrai dépotoir. Qui plus est, tout ce joli monde s'est attaqué à mes plantations dans ma cour intérieure. J'aimerais maintenant avoir votre conseil de jardinier. Comment m'en débarrasser autrement qu'en rejetant tous ces déchets chez ma voisine?
Eh bien, en allant sur le site France Inter, de regarder la grille des programmes, de voir quand est-ce que la Gaillet, j'aime bien la Gaillet, un côté la Montespan, la Maintenon, la Gaillet,
ça lui va bien.
Que j'embrasse bien évidemment, parce que c'est
bien
une...
Bien sûr qu'on l'embrasse, elle nous écoute en ce moment.
C'est une femme que j'apprécie particulièrement pour son professionnalisme et son sens de l'humour. Donc, il regarde donc le voisin quand Laetitia Gaillet est à l'antenne, il en profite pour lui restituer ce qu'elle a odieusement déversé tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Et il en profitera bien évidemment pour nettoyer son jardin en y mettant également bidons, détritus du barbecue et autres.
Mais c'est pas possible.
Voilà, faut pas hésiter.
Bonne nouvelle, mon cher Alain Baraton, dans la lutte contre le frelon asiatique, une plante serait efficace pour s'en débarrasser.
Et cette plante a pour nom Sarracenia et elle va peut-être, je dis bien peut-être, venir à bout de ce frelon qui est la cause de bien des problèmes. Explication.
Oui.
Le frelon asiatique est apparu en France dans les années 2000 et il ne cesse depuis de gagner du territoire. Quand on regarde la carte de France et qu'on regarde les zones où le frelon fait déjà des dégâts, c'est impressionnant car à l'exception d'une grande partie de l'Est et peut-être du Nord de la France, ce frelon est absolument partout. Alors il s'attaque aux abeilles et les dégâts sont importants, des dégâts qui viennent s'ajouter à une surmortalité due bien sûr aux pesticides, mais aussi aux maladies et à la raréfaction des zones de pollinisation.
À quoi ressemble cette plante et comment fait-elle pour tuer les frelons?
La Sarracenie ou Sarracenia est une plante carnivore originaire d'Amérique du Nord. Je vais essayer de vous la décrire, c'est jamais facile de décrire une plante. Elle se présente sous la forme d'une feuille enroulée, surmontée d'une coiffe, un clapet si vous préférez, et elle produit un nectar et des phéromones qui attirent le frelon asiatique. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'entonnoir et au fond de cet entonnoir, il y a un produit, le frelon asiatique en est fou. Mais pour que le frelon sache qu'il y a un produit attirant, il faut qu'il y ait une odeur. Et bien justement, c'est ce que les médecins, les scientifiques sont en train de chercher à étudier. Petite précision également, c'est que lorsque la bestiole, le frelon asiatique, s'approche pour goûter ce suc qui est au fond de cette cavité, eh bien il glisse, s'enfonce tout au fond et là il est englué dans les sucs digestifs qui vont donc le dévorer.
Alors ce que vous venez d'expliquer, Alain, brillamment, a été observé dans les serres du jardin botanique de Nantes.
Oui, et c'est pour cela que cette découverte est importante, car ce sont des scientifiques qui ont constaté le phénomène. Ce ne sont pas des Patricia Martin, ce ne sont pas des Alain Baraton. Non, non, ce sont des gens savants qui ont regardé, qui ont observé les Sarracenia cultivés et qui ont découvert dans les urnes des ailes de frelons asiatiques, car voyez-vous, la plante ne les digère pas, donc on sait avec certitude bien qu'elle boulotte le frelon asiatique.
Et alors, est-ce que la Sarracenia est dangereuse, par exemple, pour les abeilles, les guêpes ou pour nos vieux frelons?
Absolument pas. Il est observé le contenu de 200 urnes de Sarracenia. Une urne, en moyenne, contenait 3 mouches et 3 frelons asiatiques. Oui. Aucune guêpe, aucune abeille, aucun bon vieux frelon français, comme quoi cette plante est sélective pour notre plus grand plaisir.
Il suffirait donc de planter en masse des Sarracenia pour se débarrasser définitivement des frelons asiatiques.
Alors ce n'est pas si simple, car même si la culture des plantes carnivores n'est pas compliquée, contrairement à ce que l'on peut s'imaginer, il faudrait des milliers de végétaux pour capturer les frelons, quand on sait qu'un nid de frelon, un seul, peut abriter 4000 bestioles. Non, l'idée des scientifiques, comme je vous ai dit, est surtout de reproduire ce parfum qui attire les frelons, car si on est capable de reproduire ce parfum, on pourra fabriquer des pièges qui attireront pour capturer les frelons et ensuite les détruire. Mais l'idée qu'une plante originaire de l'étranger vienne détruire un insecte, lui aussi originaire de l'étranger, pour remettre de l'ordre dans notre nature, dans notre végétation.
On passe aux questions des auditeurs. Daniel, ses buis étaient infestés par la pyrale du buis. Différents produits du commerce n'en sont pas venus à bout. J'ai failli les arracher. Je les ai simplement coupés au ras du sol. Les buis ont repoussé, mais la pyrale a récidivé. J'ai alors saupoudré les arbustes de bouillie bordelaise et ça marche.
Alors, je voudrais justement, attention, attention. Là, nous avons affaire à une situation qui n'est pas dramatique mais qui pourrait devenir préoccupante. Quand on est confronté dans un jardin à un problème, on peut tester différentes méthodes, bien évidemment, mais on ne fait pas tout et n'importe quoi. La bouillie bordelaise, déjà je ne cesse de le dire, est beaucoup plus toxique qu'on ne veut bien nous le dire. Secondo, la bouillie bordelaise est un fongicide, elle est efficace pour lutter contre les champignons et certainement pas contre les chenilles. Alors je ne voudrais pas non plus que pour lutter contre une bestiole qui fait vraiment de gros dégâts, on essaye tout et n'importe quoi au détriment de la nature. Aujourd'hui, de la bouillie bordelaise, demain peut-être de l'eau de Javel et après-demain je ne sais pas quoi. Donc attention, il faut être prudent. Aujourd'hui, la méthode la plus efficace pour se débarrasser de la pyrale est le Bacillus thuringiensis. Ne me demandez pas comment thuringiensis s'écrit, c'est relativement compliqué. C'est un bacille qui s'attaque aux chenilles et qui va les dévorer de l'intérieur. C'est pas très agréable, j'en conviens. Ça semblerait efficace, mais de grâce, ne faisons pas tout et n'importe quoi. Dans les jardins, c'est comme ça que les problèmes arrivent.
Anne a récupéré un yucca d'environ 1m80, mais seul le sommet des branches a des feuilles. Elles sont belles, mais la forme du yucca n'est pas très harmonieuse. Il ressemble à un plumeau géant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un plumeau dans la vie.
Oui, j'imagine la description. Je pense plutôt à une balayette.
J'aimerais le tailler pour le faire repartir plus bas. Est-ce possible?
Oui, à une balayette de commodité. Oui, c'est parfaitement. Oui, appelons un chat un chat. Quand vous avez un manche qui se termine par une sorte de plumeau, effectivement, on peut y penser. Et de ce matin, je suis d'humeur badine. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est tailler la plante, la couper à un endroit qui lui permettra de faire un départ de nouvelles branches, c'est-à-dire au-dessus d'un œil. Observez bien une plante, elle a toujours des yeux, ce sont des bourgeons. Donc si vous coupez le tronc du yucca au-dessus, pas trop au-dessus, mais pas non plus trop près, on va dire à 1 cm maximum, vous avez d'immenses chances que la plante fasse de la ramification et que cela soit un nouveau départ, l'occasion pour la plante de redémarrer du bas. Attention à ce que je viens de dire, c'est une probabilité, mais les plantes sont comme sont parfois comme vous, Patricia, parfois capricieuses, on espère, mais de temps en temps, la plante fait ce qu'elle veut.
Je ne suis pas capricieuse. Juliette a un poirier atteint de la rouille grillagée. M'écoutez un peu, Juliette a un poirier atteint de...
La rouille grillagée.
Bravo. Je n'ai pas pu profiter de ces poires car elles tombent avant maturité. Il ne m'est pas possible d'identifier le ou le genévrier hôte du champignon en cause. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour récolter des fruits? Traitement ou arrachage de poirier pour planter un autre arbre fruitier à la place?
C'est amusant parce que cette auditrice semble être parfaitement au courant de la situation. La rouille grillagée est une maladie qui affecte durablement les arbres fruitiers, en particulier les poiriers. Et elle a besoin d'une plante hôte, le genévrier, qui est un conifère. Pas de genévrier, pas ou très peu de roues grillagées. Donc effectivement, la première chose à faire est de regarder s'il y a à proximité du verger eh bien des genévriers. L'occasion de rappeler que quand on a un poirier, on ne plantera donc jamais à côté, vous l'avez compris, bien évidemment, un juniperus. Alors moi je propose de tenter l'expérience de l'aspersion du purin, oui, j'avais un moment d'hésitation, pardonnez-moi, je peux compter sur vous pour m'aider, du purin de prêle. Hein. Donc je suggère qu'effectivement, il y ait...
Vous aspergez du purin de prêle?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le purin de prêle, on met de la prêle dans un seau, on laisse l'ensemble se décomposer et on pourra ainsi...
Et après, on fait pchipchit.
On fait pchipchit et ça peut éventuellement donner des résultats satisfaisants, mais c'est une solution, effectivement, qui peut éventuellement limiter l'extension de la
maladie. Jacqueline Petros, je voudrais savoir quelque chose.
Oui, on l'asperge sur le poirier ou sur le juniperus?
Non, on l'asperge uniquement sur le poirier.
D'accord.
Car le juniperus, lui, n'est pas sujet à la roue grillagée.
C'est
l'autre
qui le propage.
Voilà, il le propage. Et c'est vrai que donc, il ne faut, en règle générale, on évite la plantation de conifères à proximité d'un lieu de production de pommes ou de poires.
Vous ne pouvez pas commencer par ça? Ça aurait été quand même plus simple. Hervé, nous avons fait couper il y a 7 ou 8 ans.
C'est extrêmement désagréable.
Un grand liquide en bas,
oui,
qui trônait au milieu du jardin et faisait trop d'ombre. Est-ce que cela pourrait être la cause de désordres qui apparaissent depuis? Tous les arbustes du jardin meurent les uns après les autres. Ça, c'est pas drôle. Que pouvons-nous faire? Elle a replanté notamment des camélias qui ont l'air de se plaire.
Dans une quinzaine de jours, je vous parlerai du liquide en barre, un arbre que j'apprécie particulièrement pour ses teintes d'automne sublimes. Vous avez un arbre, le liquide en barre, qui pousse dans un jardin et qui a produit quantité d'ombre. C'est très très bien. Et puis d'un seul coup, on se débarrasse du liquide en barre pour une raison, X, Y, ou Z. Et les plantes qui vivaient en dessous se retrouvent en contact direct avec les rayons du soleil. Elles en souffrent. Lorsqu'il y a eu la tempête de 99, le vent a détruit des milliers d'arbres, des millions d'arbres, oui, mais des millions d'autres arbres ont été détruits par les rayons du soleil car la plante peu habitués aux rayons du soleil, a souffert justement de la chaleur prodiguée par les fameux rayons du soleil. Donc il y a fort à parier que les arbres qui vivaient effectivement protégés par le liquide en bas, se sont retrouvés en contact direct avec le soleil, avec le vent. En un mot, le petit écosystème du jardin a été fortement perturbé. Et ce n'est pas parce qu'on plante des camélias qu'on peut replanter uniquement des camélias, c'est que la plante est nouvelle, donc elle est habituée différemment. Et effectivement, je pense que l'abattage de cet arbre a créé de graves désordres.
Vous avez un conseil de lecture à nous donner pour terminer.
Un bouquin sacrément original, Algues marines, propriétés, usages et recettes. C'est un livre de Holger Moritzen, il est publié chez Delachaux et Niestlé pour 40 euros. 304 pages pour tout savoir sur les algues, leurs origines, mais également savoir quoi en faire et comment les consommer.
Vous pouvez peut-être redonner le titre et le nom de l'éditeur.
Algues marines, propriétés, usages, recettes, publié par Delachaux et Niestlé.
Merci beaucoup Alain Baraton. Est-ce qu'on a le bonheur de vous revoir demain?
Je ne sais pas.
Comment ça, vous ne savez pas?
Non, je pense que oui.